La recherche, c'est...
Les balbutiements.
Lucia travaille sur les relations entre les femmes au sud de la Méditerranée.
Denise travaille sur le sens de la sourde dans le cinéma français du XXIe siècle. Il n'y voit entre disorientation, désenchantement et désillusion.
On est tous les deux en...
SHS, sens humain et social.
Lucia fait une étude postcoloniale.
Denis fait des études cinématographiques.
On cherche tous les deux à...
Aller à la rencontre de l'autre, de l'altérité.
Lucia est allée en quête de l'identité de ces femmes qui peuplent le royaume du Maroc.
Denis pense que le cinéma français se change. Il pense qu'il se renouvelle en quête d'une nouvelle identité.
Lucia aime profondément l'autre, se jetant à cœur perdu dans la contingence de la rencontre.
Denis est plus sur la retenue, tout en boudant pas son plaisir.
On est vrai.
Dans nos rapports à l'altérité.
Lorsque Lucia voyage, elle travaille.
Lorsque Denis regarde des films, il travaille.
Voyageuse mobile.
Voyageur immobile.
Nous sommes doctorants et...
Et il s'agit de la chronique d'une rencontre.
Exploratrice du piétinement.
Découvreur de l'inconnu.
Créatrice du vide.
Analyse des nions.
Chercheuse du sens.
Et nous souhaiterions avancer avec l'assurance...
L'assurance de ceux qui ont le soleil comme patrie.
Change d'avis. Toi, tu veux changer d'avis. Tu penses que toi, tu peux être soit l'identité, soit l'altérité.
Moi, je pense que je suis un peu des deux.
Toi, tu es un peu les deux.
Ouais.
Parce que toi, tu... Parce que c'est pas que toi, tu es Déné. Déné, c'est toi, tu t'appelles Déné.
Ouais.
Déné. C'est pas que tu t'appelles Déné. Ils t'ont appelé
Déné.
Voilà. Alors, pourquoi tu es toi, l'identité?
Parce que je suis toi.
Aucune raison, c'est le mot clé. Aucune raison, parce qu'après on doit faire la liaison. Alors.
C'est quoi?
Aucune raison.
Aucune raison.
Alors pourquoi toi et toi?
Aucune raison.
Et pourquoi je suis moi?
Aucune raison.
Aucune raison.
Ah. Hey, te fatigue pas à expliquer toutes ces conneries, allez viens.
Une seconde, laisse-moi terminer. Chers spectateurs, le film que vous vous apprêtez à regarder est un hommage aux aucune raison. Cette figure de style d'une puissance fantastique.
L'hommage à aucune raison. Des mots bien étranges pour commencer cette émission quand on connaît le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue sur Radio Grenouille 88.8 dans notre nouvelle édition de Profession chercheur, une émission proposée par un groupe de doctorants dont je fais partie, rattaché à l'université Aix-Marseille. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage au cœur du monde de la recherche et vous avez pu entendre en première partie deux expériences très atypiques de chercheurs dans des domaines très différents car la recherche, contrairement à ce qu'on peut penser, est un domaine très vaste et souvent regroupe des disciplines qu'on ne soupçonne parfois même pas.
Je m'appelle Madeleine et je travaille en neuropsychologie de la schizophrénie.
Alors moi c'est Lilian et je suis doctorant en acoustique physique.
Moi c'est Iliana, je suis doctorante en neuropsychologie de l'épilepsie.
Suite à des débats autour de nos représentations de la science, on s'est rendu compte que notre vision de la science était déjà bien différente. De manière générale, il existe dans le monde scientifique des grandes questions sur lesquelles nous n'étions souvent ou pas toujours d'accord. Du coup, on a voulu connaître la vision qu'ont les gens de la science, des chercheurs, et quel pouvait être leur point de vue sur ces grandes questions. Nous sommes donc partis dans les rues de Marseille à leur rencontre. Une des premières questions que nous avons voulu leur poser était de savoir comment ils se représentaient la science.
La science, pour moi, c'est une méthode qui va expliquer différents aspects du réel, qui va expliquer différents aspects des sciences naturelles, des sciences sociales, etc. Enfin, tout ce qui est social, donc tout ce qui est naturel, et qui explique les interactions entre les deux, mais qui correspond à une certaine méthode, une façon de respecter les méthodes pour l'expliquer. C'est comme ça que je le définirais.
C'est une façon, je pense, d'expliquer un peu ce qui nous entoure, une façon plus concrète que d'autres théories comme les religions ou ce genre de choses.
On a tellement de versions sur le Big Bang, Adam et Ève, ceci, cela, blabla, Voilà, on est dans une confusion totale à ce niveau-là. Et je pense que franchement, moi personnellement, je trouve que là, on devrait mettre le maximum de thunes pour qu'en fait tout soit révélé une bonne fois pour toutes et qu'on soit tous d'accord quoi, sur le point de départ de toute chose.
Alors ça, c'est une question et surtout des réponses en fait qui nous ont énormément intéressés parce qu'on voit deux choses qu'on retrouve souvent dans les conversations. Premièrement, qu'il y a une distinction entre les gens qui sont vraiment, entre guillemets, naïfs, non spécialistes, et les gens, plus comme le premier extrait qu'on a entendu, qui sont proches du monde scientifique ou qui connaissent des scientifiques, des chercheurs, etc., qui ont une définition qui est plus proche d'une définition académique en fait, qu'on pourrait enseigner à l'école, etc. Il y a une deuxième idée qui est revenue plusieurs fois, c'est le lien entre science et religion. Et ça rejoint une question dont on avait pas mal discuté entre nous aussi, sur les attentes en fait, des non-spécialistes envers le scientifique, qui attendent du scientifique une vraie réponse, une vérité en fait, qui est 100% objective, qui est non discutable, qu'on ne va pas remettre en question. Alors que c'est justement le contraire de la définition d'un objet d'étude scientifique qui se doit justement d'être questionnable, testable, etc. Moi personnellement, et ça rejoint l'avis de certains d'entre nous, mais pas tous, je pense que dans les sciences, dans les théories scientifiques, il y a aussi une part de foi, de croyance. On choisit aussi de croire à certains arguments et pas d'autres. Et il n'y a pas forcément d'arguments qui soient plus valables que d'autres intrinsèquement, en fait. Donc... voilà, ça fait partie de ces questions qu'on avait abordées entre nous sur la façon dont la science est présentée au grand public et le fait que si nos sources d'information, c'est les magazines de vulgarisation, etc., souvent, ce débat entre les différents arguments, les différentes théories contradictoires, il n'est pas présenté comme ça, en fait. On nous présente plutôt une vérité dominante et... Une deuxième question qu'on a posée aux gens aussi sur une question un peu moins vague, du coup, sur qu'est-ce que c'est pour eux, plutôt que la science, les chercheurs ?
Une personne de lettres, qui est censée savoir... il est à la base de tout, quoi.
Justement, à trouver.
Ah, il y a une certaine... ouais, il y a un certain objectif, quand même, on va dire. Ouais. Qui est la trouvaille, alors, du coup.
Alors, on a vu, en tout cas, dans ces extraits, que déjà, le chercheur, c'est quelqu'un, a priori, d'érudit, une personne de lettres. Et aussi, il y a l'idée quand même du chercheur-trouveur. Le chercheur, il doit trouver quelque chose, il doit faire une découverte, une invention. Or, quand même, chercher, c'est aussi, même peut-être avant tout, comprendre, quoi, via des expériences, des modèles, des théories. C'est se tromper, comprendre pourquoi on s'est trompé. Et c'est après de cette compréhension qu'on pourra faire, pourquoi pas, la découverte. Mais il y a quand même énormément de recherches qui, au final, ne mènent à aucune découverte utilisable. Derrière. Et justement, pour faire ces découvertes, pour faire ces compréhensions, on a posé aux gens qu'on a rencontrés qu'est-ce qu'ils pensaient que le chercheur fait de ses journées et à quoi il ressemble.
Je vois bien en blouse blanche avec une tasse à café, pas dormir depuis 3 soirs, chercher une solution à un problème qui est une solution qui est toute proche de lui et un peu tout le temps sur les nerfs. Mais après, je sais que c'est très cliché et qu'il y a beaucoup de chercheurs de partout. On peut en croiser un peu tous les jours. Il n'y a pas vraiment de style particulier de chercheur. Enfin...
Cherche. je pense qu'il se pose beaucoup de questions sur. À vrai dire, je ne sais pas vraiment en fait.
Il y a des laboratoires. Dans les laboratoires, tout dépend de ce qu'on cherche. La sociologie, je ne crois pas que ce soit dans les laboratoires. C'est plutôt dans la rue, au contact des gens.
Dans un laboratoire, avec le microscope.
Scientifique, ça m'évoque des lunettes, d'un truc, une veste blanche, une chemise blanche, pardon, et plein de petites bouteilles bizarres avec des couleurs arc-en-ciel.
Donc là, ce qui est intéressant, c'est quelque chose auquel on s'est un petit peu attendu dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec les clichés du chercheur, qui sont donc le chercheur en blouse blanche avec des lunettes, voire avec donc des produits colorés, comme nous l'a dit le jeune homme. Ce cliché du chercheur, pour en avoir discuté, on pense qu'il est un petit peu véhiculé notamment par les images donc des chercheurs dans les films ou aussi dans les publicités. Par exemple, dès qu'on va faire une publicité sur un dentifrice révolutionnaire, la crédibilité qu'on va trouver, c'est dans l'habit du chercheur qui est en blouse blanche. C'est en tout cas ce qu'on va essayer de montrer. Mais ce qui est aussi étonnant, c'est que chez ces personnes qu'on a interrogées, elles ont conscience de ce cliché, comme on a pu l'entendre, c'est-à-dire qu'elles savent que c'est un cliché. Et finalement, elles osent dire qu'elles savent que c'est un cliché et qu'elles ne savent pas réellement ce que font les chercheurs. Et on a aussi certains qui nous ont dit, ce qui est peut-être plus proche de la réalité, que ça dépend vraiment du chercheur et du type de recherche qu'il fait. Par exemple, le sociologue, comme nous l'a dit Jean-Jacques, c'est celui qui peut-être sera un peu plus au contact de la population, et donc ça dépendra vraiment donc de la recherche que fait l'individu. Est-ce que certaines recherches sont à privilégier plutôt que d'autres ?
La médecine, essayer d'enrayer le cancer, essayer d'enrayer les maladies transmissibles sexuellement et par le sang. Tout ce qui a rapport à la médecine, bref.
Non, je pense que toutes les sciences sont bonnes. Et d'ailleurs, je pense que ça devrait être la base de la politique déjà, la base de la médecine, la base de tellement de choses. En fait, je vois pas pourquoi on a tout séparé et qu'on les a mis dans une case.
Non, tous les questionnements sont légitimes. On peut pas hiérarchiser. Non. Tout doit être étudié, questionné.
Alors là, en fait, globalement, on a eu deux types de réponses distinctes qui sont revenues quasiment à chaque fois. Donc on a d'un côté des gens qui vont considérer que des sciences qu'on va dire applicables directement, qu'on peut peut-être qualifier de utiles vraiment directement, sont à privilégier, donc notamment la médecine, ça c'est vraiment le thème qui revient quasi systématiquement, également les énergies renouvelables. Et d'un autre côté, on a des gens qui vont considérer que non, toutes les sciences sont bonnes, hein, comme dit la jeune femme qu'on a entendue, et qu'aucune n'est spécialement à privilégier, finalement, avec l'idée que la connaissance, c'est vraiment quelque chose d'important, de fondamental pour la société, et qu'il ne faut rien mettre de côté, parce que finalement, et c'est un peu aussi quelque chose sur lequel on est arrivé nous-mêmes dans nos discussions, c'est que tout ce qui va apporter des connaissances théoriques fondamentales, bah déjà, d'une part, peuvent avoir un jour ou l'autre une application vraiment pratique, même si ça peut prendre très longtemps. Et d'un autre côté, il y a l'idée aussi que bah, finalement, la science est belle pour elle-même et qu'il faut aussi privilégier cela. Et finalement, en fait, dans les deux types de réponses, les deux ne s'opposent pas, même si on a des gens qui vont considérer que la médecine ou les énergies renouvelables, c'est plus important que des choses plus fondamentales. Moi, ce qui m'a étonnée, enfin, je ne m'attendais pas spécialement à ça, en fait, c'est que les gens, j'ai eu l'impression, avaient quand même une bienveillance vis-à-vis de la science, considèrent tous que c'est quelque chose d'important. Et malgré le fait que, parfois, le métier de chercheur, comme on a vu, peut leur paraître assez obscur, parce qu'ils n'ont pas forcément une représentation très claire de ce qu'on fait de nos journées. Globalement, ils sont contents qu'on soit là, ils ont envie qu'on continue, ils ont presque, pour certains, envie même de participer à ça d'une manière ou d'une autre. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très, très positif, très enthousiasmant, et ça m'a vraiment fait plaisir, et ça donne envie de continuer encore plus. Profession chercheur sur Radio Grenouille 88.8. Donc, on a entendu tout à l'heure que tout le monde devrait être chercheur. Mais on a tous entendu cette phrase, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, et des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Cela pose la question du résultat, un chercheur doit-il trouver ? Et c'est un débat qui anime encore la communauté scientifique avec ferveur. Et regardez justement ce que ça peut donner quand on pose la question à deux chercheurs de domaines différents, Alexis, astrophysicien, et Maxime, sociologue. Alors Maxime, un chercheur doit-il trouver ?
Alors, moi, bien sûr, je pense que même si c'est parfois long et fastidieux, à un moment donné, il faut trouver. Et par exemple, on peut faire le parallèle avec des métiers classiques. Est-ce que vous envisageriez une seconde qu'un agent de ménage ne ramasse pas de saleté ? Ou de la même manière, est-ce qu'on peut envisager qu'un pilote de ligne pilote toute sa vie sans savoir atterrir ? Enfin non, moi je pense que c'est pas possible. Alors un chercheur cherche, comme vous dites, mais il cherche quelque chose à trouver et un chercheur doit trouver.
Et vous, voilà. Alexis, qu'en pensez-vous ?
Écoutez, quant à moi, je dirais surtout que c'est une question de mesure. Vous voyez, en fonction du sujet de recherche, c'est indéniable que les progrès sont visibles, mais ça peut être après plusieurs années ou alors voire dans certains cas même après plusieurs décennies. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est pertinent de chercher, ou est-ce qu'il existe un critère capable d'être invoqué pour qualifier le travail d'un chercheur et la production qu'il est censé apporter à la société? Parce que la connaissance actuelle, elle ne s'est pas faite en un jour, et je dirais que les chercheurs, autres que ceux qui ne sont pas des grands noms de la recherche, n'ont pas rien fait, n'ont pas été improductifs. Et du coup, je pense que c'est une erreur d'associer la production au travail de recherche.
Maxime.
C'est sûr, mais après, si je peux me permettre de reprendre l'exemple de notre pilote de ligne, s'il fait 200 atterrissages en simulation et qu'il en réussit seulement la moitié, est-ce que vous lui donneriez son diplôme pour qu'il transporte des passagers de Paris à New York? Évidemment non. Alors moi je dis, par exemple, un chercheur qui cherche 10 ans, s'il reçoit de l'argent public pour financer ses recherches et qu'au final il ne trouve rien, eh bien moi je suis partisan de dire qu'il ne produit pas, et voilà, c'est plutôt pragmatique.
Attendez, excusez-moi, vous me parlez de pragmatisme, voilà, j'entends bien, mais vous savez tout comme moi que l'avancée c'est quand même une question de temps et pas de production instantanée. Si on prend, je ne sais pas moi, l'idéologie de Karl Marx, ça doit vous parler. Du coup, il y a eu Marx, d'accord, mais combien il y a eu de chercheurs autour qui ont contribué avant que la pensée n'arrive et n'émerge dans la tête, si j'ose dire, de Karl Marx? Donc c'est assez ironique de vous entendre parler de production de la recherche. Et quoi qu'il en soit, donc en plus, si vous croyez en votre prophète de la sociologie, vous imaginez bien qu'il va falloir des multitudes de travaux en amont avant que ça arrive.
Sure, mais là, je crois que vous confondez travail de recherche et production de connaissances. En tout cas, vous les associez un peu trop vite. Et bon, pour vous rejoindre, moi, je dirais que le domaine scientifique, il doit continuer d'exister dans ce cas-là de la sociologie. Des questionnements doivent être posés ou des problématiques, mais sans nécessairement qu'il y ait des avancées qui soient mesurées de manière quantitative. Voilà, ce qui compte, c'est plus le processus de recherche que la découverte. Et ce n'est pas la production de connaissances, comme vous le dites.
Oui, alors attendez, en fait, si je comprends bien, la production scientifique n'est pas nécessairement observable, matérialisable ou quantifiable, en fait. Alexis ?
Oui, en effet, on peut dire ça. Bon, après, je ne suis pas surpris d'entendre mon collègue parler de processus, hein, puisque ça légitimise quand même le fait qu'en sciences sociales, on ne produit pas. Les processus, d'accord, mais le progrès, ça ne peut pas avancer non plus sans résultat concret. À un moment, les découvertes, bon, c'est utile et c'est nécessaire, et ça justifie une situation, parce que sinon, le processus lui-même n'est pas suffisant pour parler de progrès.
Ouais, vous manipulez les mots, là, parce que moi, je dis que le chercheur, il doit produire dans le sens de travailler, passer du temps, bien comprendre les relations entre les choses, les faits sociaux dans notre cas, ou même les relations qu'il y a entre sens que le sujet a dans ce qu'il fait ou ce qu'il met dans ce qu'il fait. Et ce que je veux dire, c'est que si son processus de recherche n'aboutit pas en une publication internationale, par exemple, eh bien tant pis, les prochains compléteront le travail plus tard. Par exemple, c'est Thésard.
Donc là, en fait, vous soulevez la question de l'évaluation du chercheur, qui, si je comprends bien, est basée sur le nombre de publications dans des journaux scientifiques, et qui, finalement, ce nombre représente la valeur du chercheur. C'est bien ça?
Oui, effectivement, les chercheurs sont évalués de manière plutôt officieusement qu'officiellement, mais en tout cas à partir d'un chiffre qu'on appelle l'indice de Hirsch, donc l'indice H, et qui représente en fait ce nombre, le nombre de publications ayant été au moins citées ce nombre de fois, donc H. Bon, alors on peut se questionner sur la pertinence, mais en tout cas plus c'est grand, mieux c'est dans le contexte actuel. Alors je vais vous dire, pour que les auditeurs comprennent bien quand même, les publications, c'est ce qui fait foi en termes de caution scientifique. Un papier publié, c'est vérifié par un comité d'experts, et dans la majorité des cas, c'est ce qui fait avancer la science, puisque cela rend lisible en fait à la communauté complète le travail de ce chercheur, et donc c'est par ces lectures qu'on peut progresser sur son propre domaine. Donc il faut s'en servir, et c'est très important.
C'est vrai que la publication est importante, mais après, vous savez tout comme moi qu'il y a de nombreux scandales qui ont existé dans un premier temps, qui remettent en cause des recherches parues dans des plus prestigieuses revues scientifiques, que ce soit en sciences humaines ou sciences exactes. Par exemple, M. Stapel, qui a eu 55 rétractations, ou pire. En médecine aussi, avec M. Fuji, qui a eu 183 rétractations, dont certaines dans la prestigieuse revue qui est Nature. Donc la publication, c'est important, mais après, il y a aussi de la fraude qu'il ne faut pas oublier. Et ensuite, il faut savoir que la publication, elle avance aussi en dehors du champ des revues scientifiques. Donc par exemple, pour reprendre Marx, Lui, ses travaux de recherche, il les a écrits dans un livre, Le Capital, le premier, qui est une forme de début d'aboutissement d'années qu'il a passé à se questionner. Et on a aussi, par exemple, M. Piaget, qui est un des auteurs d'une plus grande théorie du développement dans le champ de la psychologie, qui a passé plus de 15 ans à étudier ses enfants pour, au final, produire sa théorie. Mais pendant 15 ans, il n'a pas publié de choses majeures. Et donc, mais il a quand même produit.
Ouais, attendez, j'entends bien. Ça, c'est très bien. Mais alors là, vous me parlez de livres maintenant. Mais à quel moment les auteurs de ces livres, donc à quel moment ces livres ont été validés par la communauté scientifique ? Parce que bon, finalement, voilà, vous palabrez dans un bouquin sur vos contextes et vos relations entre les phénomènes sociaux. Mais jusqu'à quel point vous apportez une connaissance tangible ou des solutions concrètes ?
Non mais attendez, bon, là, sous prétexte que vous utilisez une racine carrée par jour, vous vous sentez plus prolixe que des gens qui utilisent leur conscience pour comprendre le monde qui les entoure. Donc là, c'est vraiment les sciences exactes qui débarquent, voilà, avec leur bulldozer, comme classique. Et je trouve que ça manque cruellement d'humilité. Et sachez que, pour vous répondre, les sciences humaines, elles produisent, interprètent des statistiques. Et donc, il n'y a pas plus rationnel.
Sur les statistiques. Alors, telle réaction, moi, je trouve que ça trahit votre manque de foi. Parce que faire des statistiques, bon, c'est pas tout. Hein. Il faut aussi savoir les utiliser dans leur domaine de validité, c'est-à-dire les grands nombres. Alors, je crois que vous prenez des échantillons et vous en prenez combien ? Vous prenez 10 personnes, 20 personnes, allez, peut-être 50 personnes quand vous vous ennuyez en attendant à la caisse du supermarché. Mais non, c'est pas sérieux, c'est pas représentatif.
Non seulement les échantillons, ils sont de taille suffisante pour être représentatifs. En plus, surtout, les statistiques, ça reflète le quotidien d'une société, ok ? Ce qui apporte bien plus que de compter, je sais pas, des atomes ou de chercher un nouveau matériau pour développer la nouvelle bombe atomique. Bon,
Mais vous mélangez tout. La science du vivant, bon, ok, ça classe, c'est vrai. Mais avant tout, c'est pour étudier les relations entre les groupes identifiés et pas juste pour compter les plantes. Mais vous pensez quand même qu'on a bien avancé depuis cette idée. C'est juste un moyen de classifier pour représenter les choses, vous stéréotypez. Bon, après, quant à la bombe atomique, là, je pense qu'il est intéressant de mettre le point là-dessus. Vous confondez les savoirs, donc ce que la recherche apporte, en sciences exactes, et avec ce que la société fait de ces recherches. Bon, je ne me sens pas responsable dans ce qui a été fait avec les travaux sur la bombe atomique. C'est la société qui l'a voulu. Et ça, c'est à vous de le prédire. Nous, on peut prédire des choses comme la météo à une semaine, il me semble, en sens exact, alors que vous n'avez pas été capable de voir la crise de 2008.
Non, mais attendez, après, si vous faites des sciences exactes et que vous produisez des moyens d'exterminer les populations sans se soucier de l'utilisation qui va en être fait, moi, je pense que ça manque cruellement d'éthique. Après, de toute façon, 100% des scientifiques dit dur sont bornés. Donc
bornés. Vous exagérez. Est-ce que vous savez quand même seulement ce que ça veut dire le mot science ? Donc la science est une méthode fondée sur la logique, bien sûr, mais qui propose de comprendre notre environnement par l'interprétation rationnelle d'expériences qui doivent être reproductibles. Or, vos échantillons, donc triés sur le volet, ne nous fourniront jamais de résultats identiques puisqu'ils dépendent même de l'humeur d'un seul individu de cet échantillon. Du coup, ce n'est pas reproductible et pour moi, ce n'est pas de la science.
Ouais, bah, vous avez entendu parler de la mission Rosetta, je suppose, non ?
Oui, je viens de travailler dessus.
Ouais, elle a coûté combien ?
Elle a coûté un peu moins d'un milliard d'euros. Non, mais je vois où vous voulez en venir, mais l'argent, c'est très bien. Évidemment, c'est cher. Sauf que bon, les retombées sont inquantifiables. La mission Rosetta, c'est une synergie d'entreprises européennes qui ont posé un atterrisseur pour la première fois sur une comète à des millions de kilomètres de la Terre. Et maintenant, on comprend un peu mieux les questions de l'origine de l'eau sur Terre. Et surtout, on a découvert une morphologie complexe à la surface résultant de l'activité. Donc, vous ne pouvez pas nier la qualité scientifique et même philosophique de ce genre de mission.
Ah, je sais tout ça. Là n'est pas la question. Vous ne voyez pas où je veux en venir. La question, c'est quand est-ce que sera lancée la prochaine mission sur cette même comète ?
Probablement jamais, puisque autant utiliser l'argent public pour aller sur d'autres corps que de refaire la même chose.
Et du coup, vous testez comment la reproductibilité ?
Effectivement, je n'ai pas vu venir celle-là. Mais contrairement à vous, je vous dirais que nous, on évite de se tromper. Du coup, on n'a pas besoin de reproduire. Mais après, de toute façon, ça remarcherait. Bon, l'histoire, elle énonce des faits. L'économie, elle gangrène notre quotidien. Les psychanalystes, ils répertorient n'importe quoi comme état de dépression et personne n'apporte de réponse, alors que les vraies sciences construisent des ponts, font voler des avions et nous permettent même de parler à des millions d'auditeurs grâce à ce qui s'appelle microphone.
Pour quelqu'un qui soutenait que la recherche n'avait pas forcément d'application en vertu de sa créativité, vous me rendez vraiment perplexe. Et vous semblez confondre innovation et créativité. Donc là, je ne sais pas, c'est soit un manque de logique rationnelle passager, ou alors vous êtes vraiment incapable d'être objectif quand vous n'avez pas d'équation ou de blouse blanche.
Je confonds peut-être innovation et créativité, mais moi, je sais faire la différence entre un échantillon statistique et un questionnaire de satisfaction SNCF. Et c'est pour ça, c'est pour vous qui parliez de sciences productives au départ. Bon, vous avez un peu changé d'attitude, je trouve. Vous notez d'ailleurs que les doctorants en sciences dures sont obligatoirement rémunérés, alors que dans les sciences humaines, ce n'est pas obligatoire. On voit tout de suite que la société est bien consciente de la plus-value et du bénéfice retiré dans chacun des deux domaines.
C'est intéressant de voir comment notre cher auditeur, voilà, qui serait normalement mon père, réduit en fait la quête de savoir à une marchandise en fait. Et vous n'envisagez pas une seconde que cette quête serait à affranchir de la logique économique, et que finalement la recherche, elle pourrait être utilisée uniquement, pas uniquement, mais avec un but fort qui est juste de comprendre le monde, même s'il n'y a pas d'effet immédiat, visible à court terme ou moyen terme, et que c'est pas la même chose que produire une nouvelle chaussure, par exemple. C'est quelque chose qui est de très long.
Ok, et vous, donc du coup, vous n'estimez pas une seconde que nous travaillons sur de l'argent public et que nous avons donc des comptes à rendre à ceux qui nous financent, c'est-à-dire quand même la société. Vous pensez qu'on peut se permettre de rechercher sans rien trouver, juste pour satisfaire l'égoïsme des grandes questions du monde aux dépens de sociétés qui placent de l'espoir en nous?
Oui, attendez, là, je suis un peu perplexe en fait, parce que j'ai l'impression que maintenant vous soutenez le contraire de ce que vous souteniez au début de ce débat.
Pas du tout.
Non.
Non.
Moi, ce que je soutiens, ce que j'ai toujours soutenu, c'est que la recherche, c'est un temps qui peut être court, mais qui est souvent très long. Que la recherche, la production, elle peut être de toute forme, qui peut être dans des revues scientifiques reconnues. Mais la production, elle est aussi au sein des universités, elle est aussi dans l'échange entre les pairs, et que ce qui compte, voilà, c'est que la recherche perdure, et ne pas chercher à avoir un indicateur pour classer les chercheurs entre eux, puisque c'est impossible, puisque la recherche, en fait, est partout chez les chercheurs.
Alexis, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, bah, c'était surtout un peu le but de ce débat truqué. C'était de montrer que bah, déjà, on s'oppose sur des thèmes scientifiques de recherche alors que finalement, on fait le même travail. Donc ça, c'est un biais dû au contexte sociétal, on va dire, qui a tendance à croire que le chercheur n'est pas utile. Et du coup, ça déteint sur lui et il se sent obligé toujours de dénigrer ou d'être en rapport avec les autres sciences. Et le deuxième point, c'est aussi de montrer que la foi en la recherche, il faut arrêter d'attendre constamment de la recherche, parce que c'est un peu, ça a détourné le métier d'ingénieur par le passé, c'est en train de détourner le métier de chercheur actuellement, et donc il ne faut pas avoir peur. Voilà, c'est des missions qui sont chères, mais ça reste des gouttes d'eau par rapport à tout le reste aussi qui peuvent gêner. Enfin, je veux dire, toutes les missions qu'on lance, notamment en astrophysique, ça coûte très cher, Rosetta, la mission Gaïa, tout ça, c'est des choses qui coûtent cher, mais les retombées sont bénéfiques, ne serait-ce que dans la conscience, parce que c'est quelque chose qui est beau, qu'on aime en recherche, c'est qu'on est capable d'utiliser notre conscience pour percevoir le monde et le comprendre, et ça n'a pas de prix, et tout le monde devrait être chercheur.
Merci pour cette conclusion. Just becomes everything.